Comme étrangère, on ressent un peu ça parce que bon, moi je suis pas palestinienne, j'ai peut-être pas le même sentiment patriotique, mais ceci dit, on est un peu aussi victime de la situation. On ressent très fort tout ce que doit subir le peuple palestinien parce qu'on le vit quotidiennement, comme je vous le disais tout à l'heure. Je veux dire, les barrages, les manifestations, les heurts entre étudiants et soldats israéliens, etc. Et donc on peut se sentir très très concerné. Et c'est la même chose, on n'arrive pas, parfois on voudrait pouvoir exprimer plus, et on est un peu en dehors, je veux dire, toutes ces manifestations, etc. Pour noir, pour annoncer le deuil sur le martyr. Et tout d'un coup, ils ont mis de la musique, une marche de... Enfin, je ne sais pas quel genre de musique. Non.
Musique, tu veux dire.
Musique très forte. Non, c'est pas du tout l'hymne palestinien. Mais c'est quand même, c'est très émouvant. Et on ressent que tout le monde est en train de parler de ça, et une sorte de tension quand même énorme. Et c'est très émouvant de passer par ces étudiants comme ça et de pouvoir dire quelque chose, de vouloir dire quelque chose, mais en fait de ne pas pouvoir le dire parce qu'on ne connaît pas les étudiants. C'est ça, c'est ce sentiment-là que j'ai eu ce matin.
Dans notre discussion avec Hania et Anne, nous avions bien évidemment envie de leur demander comment elles vivaient en tant que jeunes femmes étudiantes, quel lien elles faisaient entre leur vie d'étudiante et leur vie de tous les jours. Et bien évidemment, c'était d'autant plus intriguant quand on savait que Hania, par exemple, avait passé 4 ans de son existence en France et que, naturellement, la vie en France avait dû être bien différente de celle qu'elle vit en ce moment. À Jérusalem, dans sa famille.
Puis en dehors de l'université elle-même, qui a l'air d'être une chose très ouverte, on ne rencontre pas beaucoup de jeunes femmes voilées, les étudiantes ont l'air complètement intégrées aux étudiants. Je ne sais pas, c'est les 5 minutes où on a traversé le campus, c'est un peu l'impression qu'on a eue. Dans les fêtes, est-ce que cette impression se confirme, ou comment toi tu vis ça par exemple?
En fait, non. Dans le cadre de l'université, les relations... Entre les étudiants, étudiants et étudiantes, ça se passe de manière très, très naturelle, très normale. Et en ce qui me concerne, moi, personnellement, moi, j'ai vécu, bien sûr, toute seule en France, et je suis revenue ici, je vis chez mes parents. Et la société palestinienne demeure quand même une société traditionnelle, familiale. Donc, qu'il s'agisse de garçons ou de filles,
tant que la personne ne s'est pas mariée encore, la personne vit chez ses parents. Bien sûr, il y a beaucoup plus de limitations pour la fille, mais c'est, de manière générale, la personne devrait vivre chez ses parents. Maintenant, ça dépendra de la famille. Il y a des familles qui sont plus traditionnelles, qui sont plus conservatrices que d'autres. Pour moi,
dans ton cas,
pour moi personnellement, je ne peux pas me comporter de la même façon qu'en France, évidemment, parce que je ne peux pas m'isoler de la société. Même si mes parents sont quand même très ouverts d'esprit, je devrais quand même garder quelques limites à mon comportement en respectant les traditions ici.
Tu penses à quoi en particulier ?
Je pense par exemple aux relations très ouvertes entre hommes et femmes, par exemple, en dehors du lien de fiançailles, du mariage, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne sort jamais entre groupes d'amis, mais comme j'ai dit, c'est quand même le regard de l'autre dans notre société pèse énormément. Et si on choisit quand même d'aller à l'encontre de ce regard, on sera très vite marginalisé. Donc peut-être de ce point de vue-là, il faut un peu des garde-fous.
Toi, tu as donc choisi de ne pas te marginaliser, c'est ça, si je ressens dans ce que tu peux dire là maintenant ?
Oui, je peux dire que j'ai fait ce choix, mais c'est en fait tout est relatif. Je peux pas dire que c'est quand même. Ça dépend énormément de la mentalité de la famille, de l'environnement, et je vais le dire très très franchement, ça dépend de la classe sociale. Donc, ici, il y a des disparités énormes entre les Palestiniens, ça dépend de la classe sociale. Vous ne verrez jamais la même chose à Gaza qu'en Cisjordanie et en Cisjordanie qu'à Jérusalem. Jérusalem a toujours un statut particulier, non seulement politiquement, mais même socialement. Donc, ça dépend, tout est relatif en fait.
Toi, tu viens d'un milieu plutôt favorisé qui t'a permis, par exemple, d'aller en France ?
Oui, je viens d'un milieu favorisé. Mes parents sont... mon père est avocat, en fait, mais il n'a pas travaillé pendant toute la période de l'occupation depuis 67 jusqu'à l'arrivée de l'autorité palestinienne parce qu'il y avait l'union des avocats en grève qui refusait de travailler devant les tribunaux israéliens. Donc il faisait partie de cette union. Et ma mère est prof, elle est professeure à l'université.
Et ça c'est une chose rare, c'est lié aux milieux favorisés qui ont pu avoir accès aux études, etc. Qu'est-ce que ça représente par rapport justement à l'ensemble de la population palestinienne ?
Je ne sais pas si ça c'est juste lié au critère d'être d'un milieu favorisé, parce que comme j'ai dit, c'était un concours de circonstances. Les jeunes Palestiniens se sont retrouvés pendant une période de 3 à 4 ans sans enseignement supérieur, sans université, sans faculté.
Ça, c'était pendant l'intifada.
C'était pendant l'intifada. Donc, ce n'est pas seulement lié au milieu favorable, c'est lié aussi aux circonstances. Beaucoup de jeunes n'ont pas choisi de rester ici sans rien faire quand même. Ils sont allés en Jordanie, ils sont allés aux États-Unis, ils sont allés en Syrie, là où ils pouvaient y aller. Et peut-être qu'avant cette période-là, je peux parler pour moi-même, s'il n'y avait pas ce concours de circonstances, moi j'aurais fait mes études à Birzeit. Ça c'est très clair parce que mon frère aîné a commencé ses études à Birzeit. Donc j'aurais suivi le même chemin, mais c'était... Donc, ce n'est pas seulement parce que je viens d'un milieu favorisé que j'ai choisi d'aller en Europe.
Mais c'était une évidence que toi, comme fille dans ta famille, tu pouvais faire des études, choisir de faire des études. On ne faisait pas de différence entre ton frère, par exemple, et toi ?
Non, absolument pas. Non, non. Et en fait, je peux dire que l'intégrité du peuple palestinien, quand même, que ce soit fille ou garçon, il n'y a pas de distinction, je ne peux pas dire généralisée quand même, mais parmi le peuple du Moyen-Orient, quand même, le peuple palestinien est le plus éduqué entre les peuples arabes.
Tu as 25 ans aujourd'hui, Rania. On n'est pas censé être marié déjà à cet âge-là dans la société traditionnelle palestinienne ?
Non, pas vraiment. Non, pas spécialement. Non. Je vais répéter encore ce que j'ai dit. Ça, tout est relatif. Ça dépend des mentalités. C'est pas du tout signifiant.
C'est pas une obligation qu'on fait peser sur toi en ce moment, par exemple ?
Absolument pas. Non. Et non seulement dans ma famille, mais dans mon entourage et même dans peut-être les classes les moins favorisées, c'est pas du tout une obligation. Il est vrai qu'on se marie un peu tôt ici, mais ça c'est jamais par obligation. C'est par mentalité. C'est différent. Vous allez me dire quelle est la différence. Je vais vous dire qu'une obligation, c'est quand même quand on force quelqu'un. Et la mentalité, c'est qu'on a une conviction à l'intérieur. Peut-être qu'il faudra travailler plus sur les mentalités que sur autre chose.
Est-ce que tu sais, Rania, toi qui travailles dans ce centre de droit ici à l'Université de Birzeit, si dans les réflexions sur les nouvelles lois, vous parliez tout à l'heure de tout un inventaire des lois existantes pour préparer de nouvelles lois, est-ce que justement il y aura une place pour des lois qui consacrent une meilleure égalité entre les hommes et les femmes, ou des droits pour les femmes en particulier ?
Moi, je peux vous dire que je n'ai pas vraiment beaucoup travaillé sur la loi fondamentale palestinienne, mais dans ce que j'ai vu dans la rédaction de cette loi, on a accordé les mêmes droits aux femmes qu'aux hommes. Le problème dans notre société, c'est peut-être pas... c'est bien sûr, il faut quand même qu'il y ait une égalité au niveau légal, dans le contenu des lois, mais le problème reste quand même l'application et les mentalités. Donc, quand il y a une disparité énorme, il faut travailler plus sur les mentalités. Non pas qu'il faut négliger le niveau légal, mais quand même, c'est autre chose.
La loi ne fait pas changer les mentalités toute seule.
La loi prend du temps pour changer la mentalité. Il faut autre chose aussi. Des ONG, ça c'est le travail des mouvements féministes. Ça, c'est le travail au niveau des villages, au niveau national. Et ce travail se passe régulièrement et de jour en jour. Des organisations de femmes ouvrent des centres d'éducation de la femme, etc. Donc, tout ce qui est relatif à la santé, tout ce qui est relatif à la famille, tout ce qui est relatif à l'indépendance financière. Il y a des aides, des petits projets à la femme. Par exemple, rien que pour la couture, on apporte des aides financières. La femme peut travailler à la maison, la femme peut faire travail au domicile. Donc, il y a des projets à ce niveau-là. Et il faudra peut-être, si ça vous intéresse, d'aller voir d'organisations féministes à Birzeit, par exemple, au village de Birzeit. Il y a des mouvements féministes qui s'occupent de ça.
Eh bien, c'est ce dont nous allons parler tout de suite avec Nathalie Flückiger.
شدي عليك الجرح عبر الدجى رمحا من الهب شدي عليك الجرح وانتصبي عبر الدجى رمحا من الهب يا ساحة الأنواء كم عصفت فيها خيول الهول والرعب
Nathalie, nous étions ensemble dans le marché de Ramallah, dont nous entendons les appels des différents marchands. Toi, tu vas nous emmener à Saïr. Moi, je ne suis pas allée avec vous et avec toi à Saïr. Est-ce qu'à Saïr, il y a un marché comme à Ramallah ?
Non, à Saïr, il y a différents petits points de vente, mais ça reste un village. C'est-à-dire, Saïr est un village de 15 000 habitants, donc pour nous, ça peut être étonnant. Mais ça garde l'infrastructure, donc il y a principalement des maisons. Quelques petites épiceries, mais pas de lieux publics, à part les écoles.
Est-ce que les maisons, Nathalie, ressemblent à ce qu'on s'imagine être la maison traditionnelle du Moyen-Orient, toit plat, quelques coupoles
C'est, bon, il y a la coupole de la mosquée, il y a les toits plats, effectivement, mais je crois que ce qu'on appelle les maisons, non, elles ne ressemblent pas. C'est-à-dire, elles ne ressemblent pas à ce qu'on peut s'attendre. C'est beaucoup plus grand. Les Palestiniens habitent dans des maisons qui ont des surfaces assez grandes, plusieurs étages, donc on pourrait à la limite même croire qu'il s'agit de presque de petits hôtels. Et ça, pour la raison, comme Hania, je crois qu'elle s'appelle, précisait, c'est que la société palestinienne est basée avant tout sur la famille et sur le foyer. Et les maisons qui se construisent, on laisse en général dépasser l'infrastructure du béton armé, permettant ainsi de rajouter quelques étages, en tout cas un étage, qui va être destiné à la famille du fils aîné.
Alors, tu es arrivée à Saïr comment, Nathalie ? Parce que donc, tu viens de Genève, tu as fait tes études aux Beaux-Arts en Média Mix, c'est ça, on fait du cinéma ?
Enfin, c'est d'abord Média Mix, et ensuite, après mon diplôme, j'ai pu faire une année en 16 mm pour apprendre la technique du 16 mm, toujours dans la même école.
Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de faire comme premier long film, si on peut dire, parce que je crois que c'est ton premier vrai film en dehors de tes études, en Palestine. Comment as-tu fait ce choix-là ? Comment as-tu été mis en contact à la fois avec ce pays et ensuite avec le groupe de femmes qui t'intéresse aujourd'hui pour ton documentaire ?
Il y a eu plusieurs circonstances. La première, c'était il y a plusieurs personnes de mon entourage qui m'avaient parlé de la Palestine, qui s'étaient rendues eux-mêmes dans les territoires occupés. et qui m'ont ensuite montré leurs reportages. C'était soit des reportages photographiques, soit des reportages écrits que j'ai pu lire. Ça, c'était mon premier contact avec la Palestine. Ça a été un contact assez, disons, d'un point de vue politique, dans un premier temps. Et ce qui a concrétisé mon premier départ, mon premier voyage en Palestine, ça a été l'occasion de partir là-bas d'abord en Israël, à Tel Aviv. C'était afin de représenter mon école, c'est-à-dire l'ESAV, l'École supérieure d'art visuel, dans le cadre d'un festival de films d'étudiants. Alors, je suis partie là-bas pendant une semaine pour la durée du festival et j'ai également pu voyager un peu dans les territoires occupés. Et avant mon départ, il y a deux journalistes françaises qui m'avaient fait part de projets de femmes, de différentes activités, un niveau de, disons, médical, mais aussi un niveau social. Donc, elle m'avait donné plusieurs noms, plusieurs adresses, des personnes de contact. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré différentes personnes. Dans un premier temps, c'est des dirigeants de comités de femmes palestiniennes qui mettent en place ces activités d'ordre social et économique, aussi politique. Et ensuite, j'ai rencontré le centre qui soutient le projet de femmes de Saïr.
Est-ce que, comme le disait Hania tout à l'heure à Birzeit, tu as la sensation qu'il y avait, il y a beaucoup de ces comités de femmes palestiniennes, que c'est effectivement aujourd'hui une préoccupation des femmes d'essayer de mettre sur pied des projets qui concernent les femmes et leur indépendance financière, comme elle le disait tout à l'heure?
Alors, du point de vue des organisations féminines en soi, je crois qu'il y en a environ 170 à travers les territoires occupés. Du point de vue du mouvement de femmes, ça existe depuis les années 20 déjà.
Oui,
donc
je crois qu'il y a...
il y a une longue histoire. Mmh. Et l'histoire, disons, du mouvement des femmes, ça a toujours oscillé, disons, entre une préoccupation nationale, de la lutte nationale, mais aussi une préoccupation sociale. Mais pas proprement féministe, ce qui s'est produit dans un premier temps, et ça suivait l'histoire, c'est-à-dire à la fin des conflits. En général, pendant les conflits, on avait une préoccupation nationale. À la fin des conflits, c'était une préoccupation sociale. Donc, basée sur un système de bénévolat, on mettait en place des orphelinats, on mettait en place diverses aides sociales. Et ce qui s'est produit, ça c'était pendant l'intifada, c'est que les femmes ont réalisé que tous leurs efforts pendant l'intifada, qui sont mis d'un point de vue national, elles ont eu l'impression qu'elles n'ont rien reçu en retour. Donc, c'est un peu déjà avant l'intifada, mais principalement dû à l'expérience de l'intifada, qu'elles se sont dit qu'il fallait qu'elles mettent en place des projets sociaux, mais dans un sens féministe.
Et alors, ça, c'est ces premières rencontres que tu as faites à Tel Aviv. Qu'est-ce qui t'a ensuite poussé à se dire, ben moi, je vais faire un documentaire? À quoi va servir un documentaire réalisé par une... À quoi et à qui, peut-être, faut poser la question, mais c'est peut-être plusieurs questions en une. Enfin, tout ça pour dire, qu'est-ce qui t'a fait décider, moi, j'ai envie de faire un documentaire sur ces femmes palestiniennes?
Je crois qu'il y a plusieurs choses. C'est-à-dire, la première fois qu'on arrive à Jérusalem, spécifiquement, ou dans les territoires occupés, ce qui m'a frappée, c'est le rapport politique, dans un premier temps. C'est la politique est une chose qui est vécue d'un point de vue dans les moindres gestes et dans les moindres mots au niveau quotidien. Selon où on va, selon avec qui on se promène, selon dans quelle langue on essaye de s'exprimer, les quelques mots qu'on essaye de dire, que ce soit en arabe ou en hébreu, ça prend une dimension politique, ça c'est évident. Donc ça c'est assez marquant, c'est assez frappant. Ensuite, dans mon expérience avec les femmes, avec les dirigeantes, mais également avec des femmes plus proches de la base et des femmes des villages même, ce qui m'a marqué, c'est le rapport... c'est la lucidité dont elles font preuve, d'une part, et c'est ensuite le courage qu'elles montrent. C'est-à-dire qu'elles ont conscience, par exemple, dans leurs activités liées au social, que leurs projets, que toutes leurs activités doivent être adaptées à l'environnement social et qu'elles doivent précéder, mais très très légèrement, pour mieux pouvoir faire progresser leur travail. Mais chaque fois, on doit commencer depuis tout en bas et lentement, très lentement progresser, essayer d'ouvrir les choses. Ça, elles le savent parfaitement. Elles savent aussi que l'expérience de l'intifada, ça a été une expérience qu'elles doivent déduire de sa certaines conséquences et qu'elles doivent orienter leur travail en fonction de ces expériences, et que c'est aussi un chemin qui est très lent, qu'elles doivent prendre le temps pour ça.
Et donc, c'est peut-être cette action exemplaire qui t'a intéressée et te disant, peut-être ça intéressera aussi des femmes chez nous, ou c'est pour elles plutôt que tu t'es dit, je veux faire un documentaire?
Ça, c'est difficile à définir parce que pour moi, c'est un peu des deux. J'aimerais faire un travail pour elles. Mais c'est clair que je pars de mon point de vue et de ma culture. Et ça, je ne peux pas en faire abstraction. Je ne ferais pas le même film si j'étais une femme palestinienne. Eux ne feraient pas du tout le même film. Donc l'approche sera différente. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, dans le cadre des activités des femmes de Saïr, c'est le fait que ce projet leur amène à sortir de la maison et créer des ponts entre la population. On a évoqué la difficulté pour les gens de voyager, de se déplacer. Donc les femmes de Saïr ne peuvent pas se rendre à Jérusalem, elles ne peuvent pas se rendre en Israël, elles ne peuvent pas se rendre à l'étranger. Mais les gens de Jérusalem, eux, peuvent se rendre à Saïr, dans les territoires occupés. Et c'est ça qui m'intéresse, ce mouvement qui est créé à travers ce projet. Les gens sur place, par exemple, ils ne sont pas intéressés peut-être pas par les mêmes choses. Ce n'est pas ça qui leur paraîtra important.
Alors précisons peut-être que Saïa se trouve près d'Hébron.
Voilà, c'est à 5 km au nord-est, oui.
Et que c'est un village un peu dans les montagnes et où les gens vivent aussi d'agriculture. Ça, il faut peut-être préciser aussi.
Alors ils vivaient principalement d'agriculture. Alors maintenant, depuis qu'il y a l'administration israélienne, il y a deux difficultés, c'est-à-dire que l'accès à l'eau est devenu difficile, ça on l'a entendu déjà. Les produits palestiniens, c'est aussi très difficile de les exporter. Et la concurrence de l'industrie agricole israélienne est devenue aussi trop forte par rapport à l'agriculture palestinienne. Donc le travail actuellement, les raisons principales. Le travail est devenu un travail salarié. Les Palestiniens sont souvent employés par des entreprises israéliennes qui payent aussi mieux. Ça, c'est aussi un atout.
Et jusqu'à ce jour, peu de femmes dans ces activités économiques.
Oui, ouais, parce que dans le village même, il n'y a pas d'usine ou de bureau. Donc pour ça, les femmes devraient sortir du village. On a parlé du premier facteur qui limite les femmes dans leur déplacement. C'est l'administration israélienne, mais aussi la pression sociale. On n'aime pas tellement voir les femmes sortir du village.
C'est un peu la fameuse tradition, la mentalité dont parlait Hania tout à l'heure.
Voilà.
Alors, très vite, tu vas nous emmener dans le village, très concrètement, nous parler de ce projet et de voir comment... Est-ce que c'est si simple que ça d'accompagner un projet de femme pour toi qui prévoyais de faire ce film? Tout de suite.
شغيلة من أرضي عاملة أكرم بهم من عاطر النسب
Je me suis trompée, on écoutait Rosa May de Mary Lou Williams. Et là, comme annoncé, Gloria, toujours une composition de Mary Lou Williams qui joue aussi du piano.